Sèvres donnait à Rennes, à la salle des Beaux-Arts, le lundi 15 janvier 1973. Mesdames, messieurs,
il n'appartient pas à un laïc de présenter un archevêque. Même dans l'hypothèse où ce prélat ne serait pas connu. Les quelques paroles que je vais prononcer pour accueillir Son Excellence Monseigneur Lefebvre n'ont que la signification d'une immense gratitude. Depuis de longues années, le sacerdoce et l'épiscopat de Monseigneur Marcel Lefebvre brillent en pleine tempête actuelle aux éclaircies de nos espérances. Archevêque de Dakar, évêque de Tulle, supérieur général des Pères du Saint-Esprit, archevêque de Synada, supérieur de la fraternité sacerdotale et du séminaire Saint-Pédis des Cônes, la parole de Monseigneur Lefebvre, ses écrits, son apostolat, lui ont restitué cette figure que notre histoire de France nous a appris à vénérer dans nos évêques. Celle de défenseur de la cité, defensor civitatis, car l'honneur de la cité exige la permanence sacerdotale. Le curé d'Ars l'a dit depuis longtemps, laissez une paroisse sans prêtre, bientôt on y adorera les bêtes. Monseigneur, c'est dans la basilique cathédrale que vous eussiez dû être accueilli ce soir. Et c'est du haut de la chaire, dans votre tenue de cœur, que vous eussiez dû clamer votre appel à une foule recueillie. Dans cette salle séculière, première étape vers la future église des catacombes, vous n'êtes entouré que de notre humilité, de notre souffrance, mais aussi de notre espoir. Car vous êtes allé d'un regard serein et d'un pied ferme au centre même de la tragédie qui nous accable, à l'heure où les vérités primordiales de notre foi dépendent des fantaisies d'une nouvelle catéchèse, où l'Écriture sainte est falsifiée, parfois même sur les marches de l'autel, où le cœur même de notre credo est atteint par des innovations liturgiques, des omissions dogmatiques qui vont jusqu'à dénaturer la signification même de la messe, à l'heure où certains osent mettre en doute la résurrection, la présence réelle, la primauté de Pierre, tandis que le silence s'épaissit sur la dévotion mariale, à l'heure enfin où des groupes de pression tendent de plus en plus à s'imposer aux évêques pour qu'ils y choisissent, peu importe le sexe ou l'état civil. Le prêtre de demain, soigneusement pénétré du catéchisme de la lutte des classes, vous avez compris, Monseigneur, la faim et la soif de Dieu qui dévore les ouailles. Et vous entendez former un clergé qui apaise cette faim et cette soif et qui prêche à temps et à contre-temps Jésus-Christ crucifié. Successeur des apôtres, vous n'avez pas supporté l'idée que l'Église s'éteignit dans des conciliabules de communautés sans mandat et qu'un faux écuménisme présida à l'on ne sait quel mélange d'erreurs et de vérités. Vous faites des prêtres et les aspirants au sacerdoce accourent de tous côtés. Et quand on sait que plus de 50 séminaristes français sont formés par vos soins, mais sur un territoire étranger, l'Église de France serait en droit de répéter avec des sentiments où se disputeraient la joie et la douleur, Jérusalem renaît plus charmante et plus belle, d'où lui viennent de tous côtés ses enfants qu'en son sein elle n'a point porté. Les saints livres nous disent que les Israélites étaient assurés de vaincre. Aussi longtemps que Moïse en prière maintiendrait élevé ses bras vers le ciel, La bataille n'en finissait plus et les forces humaines ont des limites. Alors, Aaron, son frère, et des Lévites l'aidaient à conserver la posture implorante. C'est dans les vocations solidement dressées autour de vous et qui constituent en effet la plus belle oraison à offrir à Dieu et le plus ferme espoir dans le renouveau sacerdotal, condition première de la survivance et de la prospérité de l'Église, une sainte catholique apostolique, que vous découvrez, Monseigneur, les arcs-boutants de votre propre prière. Par votre intermédiaire, comment le Seigneur n'exaucerait-il pas la supplication si pressante et si douce de jadis? Donnez-nous des prêtres, de saints prêtres, des prêtres, de saints prêtres, qui à l'heure des tempêtes sachent nous prémunir contre notre manque de foi, nous rassurer à l'heure des ténèbres, maner nos biscoms dominés qui ad esperacit. Reste avec nous, Seigneur, parce que le soir tombe. Des prêtres, de saints prêtres, qui puissent aussi nous garantir, car vous l'avez promis, Seigneur Jésus, à l'heure où vous vous disposiez à remonter auprès du Père, que nous ne resterions pas orphelins. La parole est à Monseigneur Lefebvre.
Mesdames, Messieurs, permettez-moi de remercier Monsieur le Professeur d'avoir l'amabilité de me présenter à vous et j'espère répondre au moins partiellement à ce qu'il attend de moi, répondre un peu à vos inquiétudes, ayant été en effet témoin des événements de l'Église au cours de ces dernières années, particulièrement témoin du Concile, le grand événement de l'Église de notre temps. Bien, j'essaierai de répondre à vos questions, du moins à celles que vous vous posez intérieurement, et je souhaite que de cette conférence vous repartiez rempli de cette conviction que la solution de tous nos problèmes, c'est de garder la foi. Je vais donc d'abord exposer quelques éléments, quelques aspects de la crise que subit l'Église actuellement, et puis essayer de trouver les causes prochaines de cette crise, et enfin essayer également de vous indiquer les remèdes que nous devons employer pour aider l'Église à surmonter cette crise et à continuer à vivre d'une manière toujours plus vraie et d'une manière toujours plus efficace pour le salut des âmes. M'excuse de cette position, mais j'aime bien voir un peu ce auquel je m'adresse et je pense que c'est réciproque. Si j'ai accepté l'invitation qui m'a été faite de venir vous adresser quelques mots, c'est parce que je crois que la situation dans laquelle se trouve l'Église actuellement mérite qu'on s'y intéresse d'une manière vraiment particulière. Nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui se passe autour de nous actuellement. Il ne s'agit pas de quelques modifications liturgiques, il ne s'agit pas de quelques modifications dans la présence des vérités qui nous sont données par les catéchismes. Il ne s'agit pas seulement d'un détail vestimentaire du sacerdoce ou des religieuses. C'est pas de ça qu'il s'agit. Cela fait partie aussi de la crise, mais il s'agit d'une crise profonde, grave, qui secoue l'Église, jusque dans ses fondements, on peut le dire. Quoique l'Église est toujours les paroles de la vie éternelle, il s'agit surtout d'une crise profonde dans la foi. Et d'ailleurs, dans toute l'histoire de l'Église, lorsqu'on considère les assauts que l'Église a subis au cours des siècles, elle l'a toujours subi par des gens ou qui étaient contre la foi, ou qui avaient perdu la foi, ou qui au moins l'avaient diminuée. Par conséquent, aujourd'hui encore, c'est la foi qui est atteinte. Parce que l'homme, dans sa raison, dans son intelligence humaine, et dans son orgueil, il faut dire, accepte difficilement les vérités de la foi. Vérités qui sont évidemment des mystères, vérité que son intelligence ne peut pas comprendre, et alors devant ces grands mystères de la foi, son intelligence...
intelligence et sa raison se révoltent.
Et ceci, c'est l'histoire des vicissitudes que l'Église a subies tout au long des siècles. Mais il me semble que la crise que nous subissons est certainement une des plus graves que l'Église ait jamais subie. Parce que, comme l'a très bien dit notre Saint-Père le Pape lui-même, il s'agit d'autodestruction. Alors que, généralement, dans les crises que l'Église a subies, c'était des assauts qui venaient de l'extérieur, ou du moins de membres même de l'Église, mais qui étaient séparés de l'Église, comme du temps du protestantisme, qui se sont nettement séparés de l'Église pour l'attaquer ensuite. Maintenant, l'attaque se fait par l'intérieur même de l'Église, par les membres même de l'Église, qui restent membres de l'Église. Et ceci est évidemment beaucoup plus grave que des attaques qui viennent du dehors. C'est quand nous devons ouvrir les yeux. Nous ne devons pas rester indifférents, et nous ne devons pas considérer cette crise par un certain humour, en disant « l'Église en a bien vu d'autres, et nous n'avons pas à nous inquiéter, l'Église a les paroles de la vie éternelle, à quoi bon nous soucier ?» C'est là un rhume des foins. D'ici peu, tout ça sera dissipé. Nous sommes des chrétiens, des prêtres, des évêques qui vivons à notre époque. Nous n'avons pas le droit de jouer avec le salut des âmes. Nous sommes tous responsables, d'abord de notre propre âme, par conséquent de la préservation de notre foi, et ensuite de l'âme. Vous qui avez des enfants, vous avez à préserver la foi de vos enfants, et nous, prêtres et évêques, à plus forte raison, nous avons le devoir de protéger la foi de tous ceux qui nous sont confiés par la Providence. Vous savez bien qu'au baptême, parrain et marraine sont interrogés par le prêtre qui baptise en disant que vous apporte la foi. La foi nous procure la vie éternelle. Si la foi nous procure la vie éternelle, elle est donc ce qu'il y a de plus important dans notre vie. La vie éternelle, c'est notre vie, la vie à laquelle nous sommes destinés, la vie qui nous attend à tout instant. À tout instant de notre vie terrestre, nous pouvons disparaître de cette vie terrestre pour être participants de la vie éternelle. C'est donc le grand but vers lequel nous marchons, à lequel nous devons aspirer. Et donc nous n'avons pas le droit de nous désintéresser de ce qui met en danger la vie éternelle. Et c'est pourquoi j'ai accepté de venir ce soir vous parler, parce que quand il s'agit de choses aussi graves, aussi importantes, et je suis venu avec plaisir, quoique avec douleur aussi, parce qu'on ne peut pas ne pas penser qu'à travers ces crises, beaucoup d'âmes se perdent. Et remercier le bon Dieu d'être attentif à ces dangers et d'être venu aujourd'hui. Je pense que c'est une grâce du bon Dieu que nous ayons les yeux ouverts et que nous ayons ce souci de nous demander mais où va l'Église actuellement? Où allons-nous actuellement dans ces assauts furieux que le démon livre à l'Église? Je prendrai quelques exemples dans la crise actuelle pour essayer de la déterminer d'une manière plus précise à vos yeux. Une des premières manifestations et des plus graves manifestations de cette situation que l'Église subit aujourd'hui se trouve dans le magistère de l'Église, dans l'enseignement de la foi de l'Église. Et d'abord, remontons jusqu'à Rome. Vous savez qu'après le Concile, la congrégation du Saint-Office a été modifiée par un décret qui a fait du Saint-Office un office de recherche théologique et non plus le tribunal de la foi. Le Saint-Office a toujours été le tribunal de la foi. C'est-à-dire que, avant ce décret, un chrétien quelconque, un prêtre, un évêque, pouvait déposer au Saint-Office un écrit, un livre, une revue, un article, et demander au Saint-Office si cet écrit était conforme à la doctrine orthodoxe de l'Église. Un mois après, 6 semaines après, nous recevions une réponse qui, après avoir examiné cet écrit, nous disait « cet écrit n'est pas conforme à la doctrine de l'Église » ou « telle et telle partie n'y sont pas conformes, mais le reste est orthodoxe ». Nous avions un jugement. Les écrits étaient jugés. Par conséquent, c'était un appui sûr sur lequel nous pouvions nous baser. Or, aujourd'hui, il est très difficile, sinon impossible, d'obtenir ce jugement. Pourquoi ? Parce que le Saint-Office n'est plus le tribunal de la foi, comme il l'était auparavant, mais est devenu simplement un office de recherche théologique. Je l'ai demandé au cardinal Brown, l'ancien supérieur général des pères dominicains, qui a été très longtemps au Saint-Office. Je lui ai demandé si ce changement était un changement vraiment substantiel au Saint-Office ou bien si c'était seulement quelque chose d'accidentel. Il m'a dit et affirmé que c'était un changement considérable, un changement vraiment essentiel dans le Saint-Office. Et par conséquent, il ne faut pas nous étonner que le Saint-Office n'étant plus le tribunal de la foi, nous voyons les théologiens qui n'ont plus peur de ce tribunal, qui pouvaient les juger à tout instant, et se permettent, au nom de la recherche théologique, justement, de dire des choses qui sont tout à fait contraires à la tradition de l'Église et à la vérité catholique. Et ça, nous en sommes les témoins, vous pourriez certainement en citer des exemples, et moi-même, j'en connais également des exemples. J'ai ici, par exemple, sous les yeux, un document qui m'a été donné, qui me provient de l'Université de Strasbourg. Le doyen de la faculté de théologie de Strasbourg a fait dernièrement donc une étude sur la pensée contemporaine et expression de la foi eucharistique. Il n'y a aucun doute que cet écrit est absolument contraire à la doctrine de l'Église. Voici quelques phrases de cet écrit, vous aurez vite fait de juger. Il y a une distorsion flagrante entre nos célébrations, si dépouillées soient-elles, et le monde où nous vivons. D'un côté, des gestes et des attitudes hiératiques, un langage rituel et souvent anachronique. De l'autre, un monde sécularisé, c'est-à-dire autonome, fonctionnel, affranchi de toute référence surnaturelle. Pendant des années, nous pensions qu'il y avait là un simple malentendu et qu'il suffirait de mieux traduire les textes ou de moderniser les rites pour surmonter ce contraste. Nous devons reconnaître aujourd'hui que nous sommes en présence d'une véritable mutation culturelle. Une certaine manière de célébrer le mémorial du Seigneur était liée à un univers religieux qui n'est plus le nôtre. Et vous devinez toutes les conséquences qui découlent de principes semblables. Tout l'écrit est de ce genre. Il en arrive à dire que le Novus Ordo est de loin dépassé et que c'est l'assemblée par petits groupes qui doivent elles-mêmes inventer, trouver leur liturgie. Il reconnaît lui-même que pour le moment, il ne voit pas encore ce que pourra être la liturgie d'ici quelques années, mais que l'on va vers des groupes qui se réuniront et trouveront une expression de leurs sentiments religieux pour célébrer l'Eucharistie. Et il compare d'ailleurs la présence de notre Seigneur dans l'Eucharistie à la présence d'un auteur. Lorsque nous parlons de la présence de quelqu'un, nous donnons à ce mot des sens variés. Alors le festival de Bayreuth réalise sans doute une présence de Richard Wagner qui est bien supérieure en intensité à celle que peuvent manifester des ouvrages ou des concerts occasionnels consacrés aux musiciens. C'est dans cette dernière perspective, me semble-t-il, qu'il convient de situer la présence eucharistique du Christ. Doyen de la faculté de théologie de Strasbourg, c'est hérétique tout simplement, évidemment, prenez pas d'erreur, nous ne sommes plus dans la doctrine catholique. Bon, c'est un exemple récent dans une université catholique. Eh bien, nous retrouvons des choses semblables dans toutes les universités catholiques, maintenant, au moins celles qui ne sont pas derrière le rideau de fer. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, en Amérique du Sud, partout, je ne pense pas qu'il y ait actuellement une université catholique qui enseigne la doctrine parfaitement orthodoxe et intégralement orthodoxe de l'Église. À l'université de Fribourg, où j'étais allé précisément parce que la doctrine me semblait encore orthodoxe, actuellement, nous avons des professeurs qui enseignent des choses qui sont absolument inadmissibles. Le professeur Furtner, dont vous avez entendu parler, vous avez peut-être lu dans les journaux, le professeur Furtner, un dominicain, un père dominicain, enseigne que les relations prématrimoniales sont une chose naturelle et même souhaitable. Les catholiques suisses se sont évidemment insurgés contre cela. Vous pensez bien que les pères de famille ont tout de même protesté contre ce père dominicain qui, dans sa chaire de Fribourg, se permet de dire des choses aussi graves. Eh bien, on n'a pas encore réussi à le destituer. Le supérieur général des pères dominicains est venu à Fribourg, le monseigneur Mamie, l'évêque de Fribourg, s'est rendu à Rome, la conférence épiscopale s'est réunie plusieurs fois, le canton de Fribourg, dont dépend également l'université, a voulu encourager les évêques à destituer ce professeur, et le professeur enseigne toujours, a toujours droit à sa chaire. Il a simplement pris un congé de 3 mois, a-t-il dit, pour dialoguer avec les évêques. Mais il pense bien reprendre sa chaire de théologie morale dès la reprise du deuxième semestre de cette année, c'est-à-dire vers après Pâques. Le professeur de liturgie enseigne à nos séminaristes, les 6 séminaristes que j'ai encore à Fribourg, ce sont eux qui me l'ont dit, qu'il n'est pas difficile de faire de nouveaux canons. Il leur enseigne avec quelques orientations, quelques principes qui leur permettront plus tard, quand ils seront prêts, d'inventer eux-mêmes le canon de la messe. Le professeur Pinto, professeur également de théologie morale, lui enseigne que c'est la conscience qui doit régler toute l'activité humaine. Il doit juger, estimer les lois, mais que notre conscience ne dépend pas des lois, que la conscience est supérieure à toutes les lois, et par conséquent qu'en définitive nous sommes libres de faire et d'interpréter les lois comme nous l'entendons. Ce sont des principes, comme vous le voyez, subversif, absolument contraire à toute la doctrine de l'Église. Mais nous pourrions citer comme ça de nombreux cas. Or, ceci est grave pour l'Église, car les universités catholiques ont toujours été considérées par l'Église comme indispensables à son magistère, indispensables pour la formation de ceux qui auront des charges importantes plus tard dans l'Église. Les professeurs de théologie, professeurs de grands séminaires, évêques, sortent généralement des universités catholiques. Alors, quelle sera la doctrine de ces futurs prêtres, de ces futurs professeurs et de ces futurs évêques? Ce n'est pas seulement dans l'enseignement qui est dispensé dans les universités que se trouve le mal, mais également au niveau de l'enseignement des catéchismes. Là, vous êtes bien capable de juger vous-même ce qu'il en est par les catéchismes qui vous ont été donnés. On peut dire en réalité que tous les nouveaux catéchismes dépendent plus ou moins en ligne directe du catéchisme hollandais. C'est le même esprit moderniste, le même esprit, n'est-ce pas, des nouveautés, et qui règne dans les catéchismes qui ont été faits récemment. Or, ce catéchisme hollandais a été examiné par une commission de cardinaux qui a condamné formellement 10 points importants de ce catéchisme, fondamentaux de notre foi, et a demandé aux évêques de Hollande de rectifier et de changer les paragraphes, de modifier les paragraphes. Ces paragraphes n'ont pas été modifiés. On a fait une édition avec un quart qui donnait les différents points condamnés à la fin du livre, mais on n'a jamais modifié le texte. Et maintenant, on édite, de nouvelles éditions ne portent plus ce qui a été condamné par la commission nommée par le pape. Et c'est de ces catéchismes que sont sortis les nôtres. J'ai ici un exemple des catéchismes canadiens qui sont particulièrement suggestifs, je vous assure. Vous avez ici par exemple un sens au voyage, donc un troisième numéro, réflexion sur la rupture. Mais dans ce catéchisme, il n'est question en effet que de rupture, de libération pour les enfants. Il faut que l'enfant se libère, il faut que l'enfant provoque donc des ruptures, rupture avec ses parents, avec sa famille, rupture avec le passé, rupture avec les traditions, rupture avec la société, de telle manière qu'il prenne sa personnalité. Tant qu'il est dans ses liens, qu'il en sert, il ne peut pas faire épanouir sa personnalité. Et quand il aura rompu tous ses liens, alors il sera une personne adulte et vraiment responsable. Tout ce livre est là. Homme enchaîné ou homme libéré. Et en grosses lettres, enfin, tout est de ce genre. Le Dieu des chrétiens enchaîne-t-il ou libère-t-il? Et ceci, quand on réfléchit tant soit peu à l'esprit de notre Seigneur, à l'esprit de l'Évangile. Mais tout de même, comme le dit saint Paul d'une manière très claire, liberati a peccatis, servi facti estis justicier. Libéré du péché, vous êtes devenus les esclaves de la sainteté. Ah oui, ah voilà, mais il faut renouer ces liens, justement. Nous devons nous libérer du péché, mais nouer des liens de sainteté, servi, facti estis, justicier, vous êtes devenus les esclaves de la sainteté, c'est-à-dire les esclaves de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, les esclaves de la loi d'amour, qui est cet esclavage est un esclavage de vie, qui nous donne la vie. Nous devons renouer des liens, au contraire. Il faudrait expliquer à ces enfants que loin de se libérer des liens, ils doivent les nouer, ces liens, pour être dans la vérité, dans la vie, pour avoir la vie. Nouer des liens avec Dieu, d'abord, s'unir à Dieu, et ensuite s'unir au prochain, au lieu de rompre, ne parler que de rupture à ces pauvres enfants. C'est une abomination absolument contraire, diamétralement contraire à l'esprit de l'Évangile, à l'esprit de notre Seigneur, et on prête cela à notre Seigneur. Notre modèle, sexualité quotidienne. Et je vous assure, c'est une abomination. C'est évité d'ailleurs de manière à créer une espèce d'obsession chez l'enfant. Il y a une réalité que nul ne peut ignorer. Sous mille formes, la sexualité envahit l'univers intérieur, extérieur de tout homme et de toute femme. Enfin, dire ça à les enfants, c'est leur donner une véritable obsession, n'est-ce pas ? Tout est dans ce sexué de la tête aux pieds. Voilà ce qu'on a fait. Vous voyez ces images, si vous les voyez de plus près, c'est une abomination. Et voilà ce qu'on met dans les mains des enfants. Et tout le livre est dans ce sens-là, tout le livre. Encore, nos gestes sexuels parlent de relations. Si bien qu'un enfant qui lit ça, évidemment, ne peut pas penser au niveau sacerdoce ni à la vie religieuse, pas question. C'est impossible. Ce n'est plus, il serait considéré comme étant un anormal. Et tenez-vous bien, et à la fin, à la dernière page, vous avez le document catéchétique Sexualité et vie quotidienne a été rédigé par l'Office de catéchèse du Québec, permission d'imprimer, Gérard-Marie Coderre, président de la commission épiscopale de l'enseignement religieux du Québec. Voilà ce que l'on met dans les mains des enfants. Alors je me suis permis de porter ces catéchismes au cardinal Wright en lui disant, Éminence, connaissez-vous le catéchisme canadien, qui est, à mon sens, le pire qu'on ait jamais édité. Le cardinal m'a répondu immédiatement, avec son humour américain et avec sa vivacité, il m'a dit, oh, je sais bien, il n'est pas catholique. Mais Éminence, c'est vous qui êtes chargé de l'orthodoxie des catéchismes du monde entier par le pape. Il me semble qu'il faudrait tout de même faire quelque chose pour que ces enfants qui ont donc un catéchisme que vous dites pas catholique dans leurs mains soient tout de même délivrés de ces catéchismes. Alors vous comprenez, c'est très difficile, il faut se référer à la conférence épiscopale, il faudrait voir avec la conférence... Oui, c'est la conférence épiscopale qui les agrée. Il faudrait donc que l'autorité supérieure de Rome dise que ces catéchismes sont interdits. Et on n'a rien fait. Ces catéchismes sont toujours dans les mains des enfants et obligatoires. Les enfants sont obligés d'acheter. Alors c'est comme ça qu'il y a aussi au Canada une véritable rébellion des parents contre cette abomination qu'on met dans les mains de nos enfants. Crise en enseignement et des gens de magistère. Crise évidemment dans le sacerdoce et dans ce qui est, je dirais, essentiel au sacerdoce, la liturgie de la messe d'abord et dans la liturgie des sacrements. Tout ce qui touche l'Église, si la moindre crise survient dans l'Église, il est évident que le prêtre est immédiatement touché. Il est au cœur de l'Église. Le prêtre est celui qui dispense la vérité, qui dispense les sacrements, qui donc est celui qui est vraiment l'âme en quelque sorte de l'Église. Et par conséquent, si l'on touche à ce qui fait l'essence du sacerdoce, si on ne définit plus le prêtre d'une manière exacte, on touche évidemment à toute l'Église aussi. Or, c'est ce qui arrive, n'est-ce pas ? On ne donne plus du prêtre sa véritable définition. On ne traduit plus le prêtre comme étant celui qui est fait pour le sacrifice. Or, dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, le prêtre est toujours fait pour le sacrifice et il n'y a pas de sacrifice sans prêtre. L'Église a toujours envisagé la fonction du prêtre et la première fonction du prêtre comme celle d'offrir le sacrifice. Et pour les séminaristes qui se trouvaient dans les séminaires, c'était vraiment le but à atteindre. Nous rentrions dans le séminaire avec ce désir immense, avec cette pensée qui soutenait notre courage dans les difficultés, au milieu quelquefois de l'aridité des études. Eh bien, c'était de monter à l'autel. Un jour, je monterai à l'autel et j'offrirai le saint sacrifice de la messe. Je continuerai le sacrifice de la croix sur l'autel. Voilà ce qui était vraiment dans le cœur de tout séminariste et de tout prêtre digne de ce nom. Or, maintenant, on ne veut plus considérer le prêtre comme étant celui qui monte à l'autel pour offrir le sacrifice, comme étant essentiellement cela. Le prêtre est fait pour l'évangélisation. Mais je vous demande, quelle évangélisation ? Si on met à part le sacrifice, on ne voit plus ce que le prêtre peut évangéliser, car en définitive, l'évangélisation vient précisément de ce que le prêtre offre le sacrifice, que de ce que le prêtre continue la rédemption des péchés en faisant descendre notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel, dans son corps et dans son sang, en offrant son corps et son sang afin qu'il y ait la rémission des péchés soit appliquée à chacune des âmes qui participent au sacrifice. C'est cela, et l'évangélisation n'est pas autre chose que appeler les âmes à venir participer à ce sacrifice pour avoir la rédemption des péchés et pour vivre de la vie éternelle. Voilà le rôle du prêtre, ce n'est pas autre chose, et tous les sacrements
viennent en quelque sorte et retournent à l'Eucharistie. La Eucharistie est vraiment le centre de tous les sacrements. En conséquent, le sacrifice de la messe est aussi au centre de tous les sacrements et de tout l'apostolat du prêtre. Ne plus considérer ces notions, ne plus vouloir considérer le prêtre comme étant fait pour le sacrifice, c'est détruire sa nature. Et aussi, pourquoi vous étonnez qu'il n'y ait plus de vocation dans les séminaires? Pourquoi aller au séminaire? Pour faire de l'évangélisation. Mais quelle évangélisation? La justice dans le monde. Libérer les peuples de l'oppression de ceux qui les maintiennent dans l'esclavage. Voilà, ça finira par là, évidemment. S'il n'y a plus l'amour de Dieu, s'il n'y a plus cette pensée centrée sur Dieu, sur le sacrifice, sur cette union du prêtre à Dieu, entrant dans le sein des saints et continuant le sacrifice de notre Seigneur sur la croix, dans sa chair à lui, et puis dans le sacrifice qu'il offre sur l'autel, alors évidemment, il se tourne vers son prochain. Puisqu'il ne pense plus à Dieu, il se tourne vers son prochain, et quoi faire de son prochain? Le libérer, on lui fait une nouvelle mystique, se crée une mystique de libération des peuples, et ainsi pénètre facilement le marxisme. Les prêtres deviennent des leaders syndicalistes ou des leaders marxistes. Pourquoi s'étonner de cela? C'est logique, absolument logique. Nous devons donc retourner vers cette conception du prêtre. Il est inconcevable qu'après 20 siècles d'existence, l'Église se demande ce qu'est le prêtre. C'est inimaginable qu'on puisse se poser ces questions. Et pourquoi aussi le célibat sacerdotal? On se demande pourquoi le célibat sacerdotal. Et on entend dire assez fréquemment, bien, vous voyez, le prêtre est tout de même tellement occupé, tellement chargé par son apostolat. Je me demande si c'est bien vrai, puisqu'il y en a tellement qui vont travailler dans les usines, je suppose qu'ils sont tellement occupés par leur apostolat. Eh bien, ces prêtres sont tellement surchargés qu'ils ne pourraient pas, évidemment, avoir un foyer, c'est impossible. C'est ça qui doit, en principe, serait la cause du célibat du prêtre. C'est absolument faux. Ça peut être une raison surérogatoire, une raison supplémentaire, mais non pas la véritable raison du célibat du prêtre. Parce qu'à ce moment-là, moi, je pense que le docteur aussi devrait être, lui, célibataire également, parce qu'il est peut-être encore plus occupé qu'un prêtre. Il doit être à la disposition de ses malades de nuit et de jour. Il n'y a pas de raison. Tandis que le célibat du prêtre est demandé par son union à notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa proximité, je veux dire, si par vraiment une presque une familiarité, je dirais, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il est chargé, comme la Vierge Marie a été vierge également, parce qu'elle a été unie à Dieu et que Dieu est esprit, alors il convenait que la mère de Dieu fût vierge. Et bien de même, il convient que le prêtre qui fait descendre aussi sur la terre, comme la Vierge Marie par son fiat a fait descendre Dieu dans son sein, de même le prêtre qui fait descendre par les paroles de la procès de consécration qu'il prononce Dieu sur l'autel, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, soit vierge aussi. Voilà la raison du célibat. C'est ça la raison profonde du célibat. Alors on comprend que le jeune séminariste sacrifie justement ce désir peut-être qu'il pourrait avoir lui aussi de fonder un foyer pour s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ et être vraiment prêtre. Donc comme vous voyez, quand on touche à l'essence du sacrifice de la messe, si le sacrifice de la messe devient un simple repas, comme le dit le directeur Flivoyen de la faculté de théologie de Strasbourg, une simple présence musicale de notre Seigneur Jésus, ça n'a plus de sens. Le prêtre n'a plus de raison ni d'être célibataire, ni de se donner tout entier à notre Seigneur. Donc la réforme liturgique qui a été faite, et qui a été faite certainement dans un esprit œcuménique. Encore une fois, je vous dis que je ne juge pas les personnes, je juge les faits, et je juge les écrits, parce que je veux me placer, si vous voulez, comme le Saint-Office se plaçait lorsqu'il jugeait un écrit. On a reproché parfois au Saint-Office de ne pas faire appel aux auteurs, et de ne pas les entendre. Mais le Saint-Office n'avait pas besoin d'entendre les auteurs pour condamner leur livre. Il condamne le livre, il condamne les phrases telles qu'elles sont, ces phrases ne sont pas orthodoxes. C'est tout, quel que soit l'auteur. Eh bien, j'essaye de me mettre sur ce plan et de dire telle chose n'est pas conforme à la doctrine traditionnelle de l'Église. Je n'y peux rien. Et il est certain que la définition de la messe de l'article 7 de l'institution du nouveau sordo était cette définition qui a été donnée de Dieu sacrifice de la messe, n'est-ce pas, n'était pas orthodoxe. Absolument certain. La messe n'est pas une assemblée semblable à un repas qui est présidé par un prêtre. Ce n'est pas cela, la messe. Prenez le Concile de Trente, lisez le Concile de Trente, et vous verrez que la définition du Concile de Trente est absolument contraire à cela. La messe est d'abord
la continuation du sacrifice de la croix. C'est d'abord un sacrifice, et pour qu'il y ait un sacrifice, il faut qu'il y ait une victime. Et pour que la victime soit présente, il faut qu'elle soit réellement présente. Or, la victime dans le sacrifice, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Pas un autre, c'est la même victime que sur la croix. Et c'est le même prêtre que sur la croix qui offre le sacrifice, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le ministre principal du sacrifice de la messe. Le prêtre n'étant que son ministre subordonné, son alter ego, c'est cela la Sainte Messe. Si on enlève, si on change la définition de la Sainte Messe, vous voyez à quelle conclusion on arrive. On fait de la Sainte Messe un repas, une scène, une célébration eucharistique. On partage le pain de la foi, on partage la communion, de la fraternité humaine. Nous ne sommes plus du tout dans la vérité catholique. Nous sommes hors de l'Église catholique, il n'y a pas de tout. Je ne dis pas que le Novus Ordo supprime complètement la notion du sacrifice, mais je dis qu'il y a une tendance, à faire du sacrifice une simple scène. Et la meilleure preuve, c'est que nous arrivons maintenant à des célébrations qui, dans bien des cas, ressemblent tout simplement à un repas. On veut l'assimiler de plus en plus à un repas et de moins en moins au sacrifice. Le fait, par exemple, d'avoir aussi dit qu'on pouvait célébrer sur une simple table, table du repas. Le fait que l'on ait supprimé les reliques des saints, qui représentaient justement le sacrifice des saints et des martyrs qui communient au sacrifice de notre Seigneur, qui ont répandu leur sang pour notre Seigneur. On supprime ces reliques des saints. On supprime cette évocation du sacrifice de notre Seigneur par les reliques des saints qui étaient dans les pierres d'autel. Or maintenant, on peut consacrer son pierre d'autel, faire la messe en pierre d'autel. Autant de petites choses, vous me direz, mais qui sont tout de même, à la longue, significatives, et qui peu à peu, changent, finissent par changer la notion essentielle du sacrifice de la messe. Il ne faut pas oublier que c'est comme cela que les catholiques sont devenus protestants au XVIe siècle, par le changement de la messe, en faisant précisément du sacrifice un repas. Alors nous devons être très prudents. Et je souhaite vivement que tous les prêtres qui m'entendent, ou enfin que je pourrais me faire entendre, reprennent à partir de l'offertoire jusqu'à la communion intégralement l'ancien ordo. Ceci afin de protéger notre foi, ce n'est pas pour autre chose, c'est pourquoi c'est grave, car le Saint-Pape Pie V, lorsqu'il a fait sa bulle, a fait ça en conséquence du Concile de Trente, qui était un concile dogmatique. Et donc, ce Saint-Pape a voulu fixer définitivement les paroles et les rites du sacrifice de la messe, afin justement de protéger la foi des chrétiens contre les déformations du sacrifice qui avaient été faites par les protestants à cette époque-là. Le Concile de Trente a été fait surtout contre les erreurs des protestants. Et par conséquent, il était nécessaire, le Concile de Trente avait souhaité que le pape fixe définitivement les rites de la messe afin de protéger notre foi. Parce que dans l'ancien offertoire est tout entier centré sur les fins de la messe, et particulièrement la rémission des péchés. Eh bien, les protestants sont contre la rémission des péchés, parce qu'ils disent que le but du sacrifice de la messe n'est pas un but expiatoire, ils prétendent que c'est un blasphème vis-à-vis de notre Seigneur. Que notre Seigneur a effacé tous les péchés par le sacrifice de la croix. Et par conséquent, que vous dire que le sacrifice que l'on offre est un sacrifice qui est encore offert pour la rémission des péchés, c'est blasphémer notre Seigneur. Et contre cela, l'Église a toujours au contraire affirmé, réaffirmé, que le saint sacrifice de la messe était au contraire l'application des mérites de notre Seigneur et du sang de notre Seigneur aux fidèles par l'offrande qui en était faite sur l'autel, pour la rémission des péchés, pour appliquer le sang de notre Seigneur Jésus-Christ aux âmes et les sanctifier. Tout cela a une très grande importance, pour ne pas oublier ces choses-là. Mais pourquoi alors les pères de Thésée qui ont participé à la réforme liturgique, revenant chez eux, ont pu dire que désormais ils pouvaient célébrer le saint sacrifice de la messe avec les catholiques? Il y a là donc un changement, nécessairement. Et si on a cru bon ensuite de changer la définition de la messe, car il y a eu tout de même une telle réaction parmi certains cardinaux, n'est-ce pas, qui ont tout de même fait savoir au Saint-Père que cette définition, il la trouvait vraiment dangereuse, dangereusement proche de l'hérésie, et le Saint-Père a fait modifier cette définition, mais on n'a pas retouché à l'ordo qui a été fait, alors que certainement, c'est en fonction de cette définition que les changements ont été faits dans le rite de la messe. Alors c'est qu'en loin de pouvoir comparer ce qu'a fait le Saint-Pape Pie V
et ce qu'a fait la congrégation des rites, n'est-ce pas? Eh bien, d'un côté, on a des changements, des choses nouvelles, de l'autre côté, au contraire, on a fixé des textes qui venaient du temps des apôtres. Prenez la somme de saint Thomas, lisez le commentaire de saint Thomas sur la sainte messe, et vous verrez que saint Thomas lui-même, qui donc vivait au XIIIe siècle, dit que la plupart des prières que nous disons pour la sainte messe remontent au temps apostolique. Voilà des choses qui me semblent importantes de signaler afin de maintenir notre foi. Ce n'est pas pour autre chose que je vous parle. Je suis moi-même rempli de douleur et d'angoisse quand je pense qu'il faut dire des choses comme celle-là. Combien je préférerais dire que tous les changements qui ont été faits sont des choses absolument splendides et que j'encourage tout le monde à entrer dans ce changement et dans ces mouvements, tellement nous sentons un souffle du Saint-Esprit et un désir de sainteté qui anime toutes ces réformes et toutes ces choses. Mais nous sommes obligés de constater que c'est les réformes qui ont été faites, loin de donner un renouveau spirituel et de revitaliser l'Église, hélas, nous voyons ce qui se passe. Les séminaires vides. Pourquoi les séminaires vides? Pourquoi les noviciats vides? Pourquoi les congrégations religieuses en plein désordre, en pleine décadence? Tout de même une raison. Il faut la chercher dans ces réformes qui risquent de vider de leur sens ce que la tradition nous avait donné comme moyen de recevoir la Sainte Grâce de notre Seigneur, les Saintes Grâces de notre Seigneur. Et on ne peut pas tout changer dans les sacrements. La matière, la forme et l'intention de faire ce que fait l'Église sont des choses immuables. Pourquoi le pape Léon XIII a-t-il déclaré que les ordinations anglicanes étaient invalides? Parce que, par défaut d'intention de faire ce que veut l'Église. Si le pape a cru devoir prendre une décision pareille, constater, car il n'a fait que constater, historiquement, que les évêques anglicans n'avaient plus l'intention de faire ce que voulait faire l'Église. Et par conséquent, il a déclaré, conséquemment, les ordinations anglicanes sont invalides. C'est grave. Donc tous les prêtres qui ont célébré et qui ont été ordonnés par ces évêques anglicans célébraient des messes invalides. La présence de notre Seigneur n'était plus là. Et ça a touché profondément les anglicans, à tel point qu'après, beaucoup de ces prêtres protestants, ou du moins ces séminaristes protestants, recherchaient des évêques vieux catholiques pour se faire ordonner, parce qu'ils s'étaient forcés de reconnaître que leurs ordinations étaient invalides et que donc ils n'étaient pas prêtres. Et cela à cause du défaut d'intention. Alors vous me direz, mais ce défaut d'intention porte-t-il aussi sur le Saint-Sacrifice de la Messe? Bien sûr, sur tous les sacrements. Il faut que celui qui fasse le sacrement ait l'intention de faire ce que fait l'Église. Or, autrefois, il n'y était pas de question. Tous les prêtres, automatiquement, ont toujours voulu faire ce que voulait faire l'Église. Mais maintenant, on peut se le demander. On peut se le demander pour les jeunes prêtres. On pourrait demander à des jeunes prêtres, et vous pourriez le faire à l'occasion, lorsque vous voyez des prêtres qui semblent ne plus avoir la foi dans la présence réelle, leur demander... Mais mon père, mais monsieur l'abbé, est-ce que vraiment ce que vous faites, vous avez l'intention de le faire dans la même intention et selon les mêmes définitions que l'a dit le Concile de Trente? Et si vous répondez oui, alors vous êtes sûr que son sacrement est valide. Mais si vous dites non, oh non, le Concile de Trente, pensez, il y a longtemps que c'est passé, voyons, il ne faut plus parler du Concile de Trente. Parlons du Concile Vatican II, mais pas du Concile de Trente. Alors maintenant, vous comprenez bien, le terme de transsubstantiation n'a plus aucun sens. On ne sait plus ce que c'est que la substance. C'est quand on peut savoir ce que c'est que la transsubstantiation. Vous comprenez bien, maintenant, c'est la transfinalisation, la transsignification, c'est une présence spirituelle. Sa messe est invalide. Inutile d'aller à sa messe, le Saint-Sacrement n'y est pas. Il ne fait plus ce que veut l'Église. Il fait ce que veut sa nouvelle religion à lui. C'est pourquoi la foi du prêtre, indirectement, je ne dis pas directement, mais indirectement, peut avoir une influence sur son intention. Parce que nous sommes maintenant dans une phase d'une nouvelle religion qui est close, il ne faut pas nous faire d'illusions. Eh bien, j'en arrive maintenant quand même aux causes. J'aurais voulu vous parler aussi un peu de l'institution de l'Église, mais je vois que le temps passe. Et je ne voudrais pas abuser de votre temps. Mais maintenant, il nous faut arriver aux causes de cette crise. Et là, j'espère ne pas vous émouvoir, j'espère ne pas vous scandaliser, mais personnellement, je ne peux pas ne pas vous dire ce qui me semble évident pour moi, qui me crève les yeux. La cause prochaine, je dis bien, de la crise dans laquelle nous nous trouvons, c'est le Concile. Je ne dis pas c'est l'interprétation du Concile, comme on le dit trop facilement. C'est trop facile de dire « ne touchez pas au Concile ». C'est l'interprétation du Concile, ce n'est pas le Concile. Je dis, c'est le Concile. Pourquoi? Mais comment? Mais ce Concile est un Concile comme les autres, donc vous allez contre l'infaillibilité de l'Église, vous allez contre l'infaillibilité du Saint-Père, ça a tout de même été signé par le Saint-Père, ça a été signé par 2000 évêques, oui. Mais ce concile est un concile pastoral. Les autres conciles étaient des conciles dogmatiques, dans lesquels l'infaillibilité du Saint-Père était engagée, dans laquelle l'infaillibilité de l'Église était engagée, et dans laquelle le Saint-Esprit lui-même était engagé. Dans ce concile Vatican II, étant donné que les papes eux-mêmes ont pris le soin, le pape Jean XXIII, le pape Paul VI ont pris le soin de dire nous ne faisons pas un concile dogmatique, nous n'avons pas l'intention de définir des vérités, nous avons simplement l'intention de parler au monde, d'exposer la doctrine de l'Église au monde, mais nous faisons un concile pastoral. L'infaillibilité n'est pas engagée. Elle est engagée dans la mesure où le concile Vatican II reprend les vérités déjà définies autrefois par l'Église, des vérités qui sont donc des vérités infaillibles. Donc tout ce qui reproduit les vérités qui ont été déjà définies autrefois, bien sûr, ces vérités sont infaillibles, dans le concile Vatican II comme dans partout ailleurs, comme dans les catéchismes. Mais ce qui est nouveau, ce qui est une nouvelle expression, eh bien cela n'est pas nécessairement infaillible. Loin même d'être infaillible. Et c'est précisément parce que le concile a été pastoral qu'il a pu être investi par les forces modernistes. Il a été envahi par les forces modernistes, il ne faut pas l'oublier. Et comment cette invasion, si je puis dire, comment cette prise de possession du concile par les esprits modernistes a-t-elle pu se faire? Eh bien, je puis vous citer deux faits, celui du changement d'élection des membres des commissions et le fait du renvoi de tous les schémas de la préparation du concile. Le premier fait, nomination des membres des commissions. Il était normal que, ne connaissant pas les évêques qui étaient avec nous au concile, on donne les listes de ceux qui avaient fait partie des commissions préconciliaires, de ceux donc qui avaient déjà travaillé dans les commissions qui préparaient le concile, puisque nous ne nous connaissions pas. Comment voulez-vous que j'aille nommer, moi par exemple, des évêques du Brésil dans telle et telle commission, des évêques des États-Unis? Je ne connais pas, je ne sais pas quelles sont leurs qualités, je ne sais pas si celui-ci est plutôt versé dans la théologie morale, ou celui-là dans la théologie dogmatique, celui-là dans la liturgie, celui-là enfin dans le sacerdoce, je n'en sais rien, je ne sais pas. Alors il était normal qu'on nous donne les listes de ceux qui avaient déjà été prévus et qui avaient travaillé dans les commissions préconciliaires. Or, s'est levé à ce moment-là le cardinal Liénard, se faisant l'interprète des cardinaux du Bordurin, qui étaient déjà groupés, qui avaient une association déjà très très fortement constituée, avec des bureaux, des secrétariats, un argent considérable, n'est-ce pas? Et donc, qui était prêt à la lutte, qui s'est élevé en disant « c'est une pression intolérable faite sur les pères conciliaires, nous ne voulons pas ces listes-là. C'est la curie romaine qui veut nous imposer à nouveau ces noms. » Cardinal Ottaviani s'est levé, a dit « mais non, nous les soumettons au libre choix des pères, mais nous pensons que les pères n'étant pas informés sur les membres à choisir pour mettre dans les commissions, il est juste que l'on mette sous leurs yeux ceux qui ont fait partie des commissions préconciliaires. » Tout à fait normal, tout à fait naturel. Eh bien, malgré cela, donc on a remis à plus tard l'élection des membres des commissions, et l'on a dit, eh bien, ce seront les conférences épiscopales qui présenteront les noms. Et ces noms seront donc soumis aux pères, et les pères choisiront. Mais le temps qui était donné pour faire cela était véritablement trop court, je ne sais plus si c'est 24 heures ou 48 heures, en tout cas pas plus de 48 heures, certainement pas. À peine le temps de réunir les conférences épiscopales, d'établir les listes, de faire les choix, de distribuer à tous les pères. Mais l'après-midi même de cette séance, nous avions une liste internationale, et évidemment ce sont ces listes qui sont passées. Que voulez-vous, il n'y avait rien de préparé, elle était un peu dans le désordre, les conférences épiscopales, à peine le temps de se réunir, ne connaissant pas, il ne fallait pas panacher toutes ces listes, de les choisir. C'était bien plus simple, évidemment, de prendre la liste qui était présentée par ce groupe. Et ce sont ces membres qui ont été nommés dans les commissions, aux deux tiers. Donc ils avaient la majorité des voix. Première victoire, je dirais, des libéraux, n'est-ce pas, au concile. Deuxième victoire, quelques jours après, il s'agit de commencer les travaux. On nous a donc fait part des premiers schémas, on nous a donné les premiers schémas qui avaient été travaillés par les commissions préconciliaires. De nouveau, attaque du groupe libéral, qui dit « Ah non, 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 nous ne voulons pas de ces schémas. Ces schémas ont été préparés par la curie romaine, nous ne voulons pas entendre parler de ces schémas. Enfin, alors bien, 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 alors il faut mettre aux voix. » Le règlement du concile prévoyait qu'il fallait les deux tiers des voix pour rejeter un schéma. Par conséquent, il fallait savoir s'il y avait deux tiers des pères qui étaient contre les schémas préparés avant le concile. S'il y avait les deux tiers, alors les schémas étaient renvoyés. C'est trouvé qu'il n'y avait pas tout à fait les deux tiers. était, je ne sais plus exactement, mais enfin environ 60%. Les pères étaient pour le rejet des schémas. Alors, de nouveau, ces messieurs sont allés trouver le Saint-Père et ont supplié le Saint-Père en disant, écoutez, il y a plus de la moitié quand même des pères du Concile qui ne veulent pas ces schémas, vous n'allez tout de même pas nous faire étudier ces schémas. Et le pape Jean III a accédé à leur demande. Et on a rejeté tous les schémas. Si bien que toute la préparation qui a été faite pendant deux ans et demi pour le Concile a été réduite à néant en l'espace d'un instant. Plus un schéma, plus rien. Nous étions réunis sans rien devant nous. Aucun ordre du jour, aucun schéma, aucun écrit, plus rien du tout. Enfin, imaginez une conférence de 2400 évêques qui se réunit comme ça. Nous aurions dû normalement suspendre nos travaux, attendre que les commissions préparent de nouveaux schémas et reprendre les travaux 2 ans après pour faire quelque chose de sérieux. Mais non, on l'a tout de suite, on s'est tout de suite mis à l'heure. Vite, les commissions ont préparé des schémas, ont commencé des choses et nous ont donné le papier, on a commencé comme ça. Enfin, est-ce que c'est normal? Ensuite, bien normal aussi que tous les schémas préparés par ces commissions fussent évidemment dans une orientation très marquée, étant donné que les 2/3 des membres étaient, eux, favorables à l'ouverture au monde, les changements, les nouveautés, la recherche théologique, etc., enfin dans ces idées-là, l'évolution du dogme, et ainsi de suite. Car dans les commissions, on avait le droit de nommer des sous-commissions. Et dans ces sous-commissions, on retrouvait Schilbeck, Congar, Rahner, Hans Kunz, tous les autres. Ils étaient dans les sous-commissions. Ils étaient dans toutes les sous-commissions, de telle manière qu'ils ont inspiré tous les schémas du Concile. On les retrouve là. Alors pourquoi s'étonner qu'on ait des schémas comme ceci? Je peux vous citer une simple phrase d'un des schémas qui nous a été donné, donc celui de Gaudium et Spes, le premier schéma, qui nous dit des choses enfin incroyables et qui montre bien ce qu'était l'esprit de ces gens. Le genre humain passe d'une conception plutôt statique de l'ordre à une conception plus dynamique et évolutive, qui entraîne toute une problématique nouvelle. Presque tout doit donc être repensé, analysé, pour ainsi dire désintégré en ses éléments essentiels et accidentels, pour être ensuite recomposé en abandonnant au besoin ceux-ci, les accidentels, et en engageant ceux-là, les essentiels, en de nouvelles synthèses qui devront être éprouvées au feu de l'expérience. Eh bien, il y a dans une phrase comme celle-ci de quoi faire sauter toute l'Église. Il ne restera plus rien. Il faut désintégrer les vérités que nous avons. Il faut désintégrer ce qu'on a fait jusqu'à présent pour retrouver des nouvelles synthèses que l'on fera selon des expériences. C'est fini, il ne restera plus rien. Et voilà ce qu'on nous a donné. Alors ça, c'est significatif de l'esprit de ceux qui nous ont donné ces schémas. Ces schémas, schéma constitution, l'Église moderne dans notre temps. Quels ont été les objectifs qu'ont poursuivi les libéraux dans le Concile? Ils ont poursuivi 3 objectifs fondamentaux. Celui de la collégialité, celui de l'œcuménisme et celui de la liberté religieuse. C'était les 3 schémas fondamentaux qu'ils ont poursuivis. Le reste leur importait peu. Un schéma sur les prêtres, bon, le cardinal Renard, à ce moment-là, Monseigneur Renard, s'est levé à demander qu'on fasse quand même quelque chose pour nos confrères, les prêtres, qui vont être étonnés qu'on n'ait rien dit sur eux à l'occasion du concile, il faudrait quand même quelque chose, dire quelque chose. Bon, on va faire un petit schéma sur les prêtres, ça les consolera. C'est tout, mais ça n'était aucune importance dans le Concile, ça a été adopté tout de suite, pas de difficulté, adopté, rien du tout. Mais alors, quand il s'est agi de la collégialité, alors là, il y a eu de la lutte, et là, ils ont essayé à tout prix à faire passer, non pas seulement une collégialité morale, une union morale entre les évêques, ce qui est tout à fait normal, car il y a toujours eu un collège, il y a toujours eu le collège apostolique, ceci est vrai, mais autre chose le collège, autre chose la collégialité. La collégialité reprend une notion abstraite, qui est bien définie et qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que tous les membres sont égaux dans un collège et élisent un de leurs pairs pour les diriger, pour diriger les débats du collège. C'est pas ça le collège apostolique. Le collège apostolique est un collège absolument sui generis, qui ne ressemble à aucun collège. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est la tête et qui n'est pas choisi par ses pairs, qui est désigné par ses pairs, mais pas l'autorité lui est pas donnée par ses pairs. Et une fois qu'il est nommé, il a tout pouvoir sur le collège, tout pouvoir. C'est donc un collège sui generis. On ne peut donc pas faire rentrer le collège apostolique dans la notion de collégialité, ou faire rentrer la notion de collégialité dans le collège des apôtres, sans le ruiner, sans le déformer complètement. Et ce principe de la collégialité, à mon sens, est exactement le principe de l'égalité qui, en 89, a été inspiré par la franc-maçonnerie et philosophe. Examinez bien et vous verrez, réfléchissez et vous trouverez que ce terme de collégialité correspond exactement à l'idée d'égalité de la Révolution. Et c'est cela qui a introduit le principe démocratique dans l'Église et qui est en train d'instaurer des structures dans l'Église qui sont contraires à l'autorité personnelle du pape, à l'autorité personnelle des évêques, à l'autorité personnelle des prêtres. Ceci est donc tout à fait grave. Ensuite, deuxième objectif qui a été poursuivi par les libéraux dans le Concile, celui de la liberté religieuse. Cette liberté religieuse, il faut bien la comprendre, c'est exactement les trois termes d'égalité, liberté et fraternité qui se retrouvent dans le Concile traduit en langage ecclésiastique. L'égalité, collégialité. Liberté, liberté religieuse. Fraternité, œcuménisme. C'est exactement traduit en langage ecclésiastique les mêmes erreurs qui ont été dispensées par la Révolution française, par cette philosophie de la Révolution française. Ils peuvent bien se comprendre. Ils peuvent avoir un bon sens. Et ça peut avoir un mauvais sens. Mais là, le diable est à son aise. Il est dedans, vraiment, alors, là, chez lui. Quand il s'agit de termes ambigus, d'ambiguïté, de confusion des idées, alors il est maître, là, n'est-ce pas? Et il nous a trouvé ces mots pour nous mettre dans la confusion totale. Nous y sommes en plein confusion avec ce principe démocratique qui est en train de ruiner toutes les structures de l'Église. Je n'ai pas le temps, mais je pourrais vous donner des exemples, des synodes qui se font actuellement, et ou qui se sont faits, et qui introduisent la démocratie complète dans l'Église, complète, complète. On commence par la base, et on élit, et on élit, et on élit, on arrive aux évêques, on arrive aux papes. Voilà, c'est l'idéal qui est en train de se poursuivre maintenant. Puis la liberté religieuse n'a jamais été entendue dans le langage du magistère de l'Église, dans le sens dans lequel il a été entendu au Concile. Liberté religieuse peut vouloir dire liberté de la religion ou liberté des religions. Oui, c'est tout la même chose. Liberté de la religion, la liberté de la vérité, oui, très bien. L'Église a toujours entendu dans ce sens-là, quand l'Église demandait la liberté religieuse, elle demandait la liberté de la religion, c'est-à-dire de la vérité. Liberté de la vérité, elle a le droit de demander ça. Parce que c'est Dieu qui est la vérité, et donc Dieu a droit à la liberté, Dieu a droit à être honoré, Dieu a droit à être respecté. Donc on a le droit à la liberté religieuse de la religion catholique et à la religion de la vérité, la religion de notre Seigneur. Mais liberté des religions, c'est-à-dire mettre sur le même pied le droit commun, donner le droit commun à toutes les religions et mettre l'Église dans le droit commun, c'est-à-dire un droit qui était imposé à toutes les religions, c'est absolument contraire à l'essence même de l'Église. L'Église a toujours parlé des autres religions selon ce mot de tolérance, tolérance religieuse. On tolère l'erreur, on tolère, mais on ne met pas sur le même pied l'erreur et la vérité. On ne met pas sur le même pied le vice et la vertu. Vous-même, vous êtes obligés de tolérer vos défauts, nous sommes tous obligés de tolérer nos défauts. Nous ne pourrons pas nous suicider parce que nous avons encore des défauts, mais je pense que nous n'allons pas quand même mettre nos défauts sur le même pied que nos qualités. N'allons pas mettre nos erreurs sur le même pied que les vérités que nous avons. C'est insensé. Bien, c'est cela que signifie liberté religieuse prise dans le sens du Concile, où on a accordé, on a voulu, selon le fondement de cette nouvelle liberté, le Père Congarde le dit lui-même, en effet, on a changé le critère de cette liberté religieuse. Maintenant, désormais, nous avons découvert au Concile que la liberté religieuse était fondée sur la dignité humaine. Mais je vous demande de définir la dignité humaine. Nous l'avons demandé au Concile. Mais définissez donc ce qu'est la dignité humaine. Ah, nous ne faisons pas ici un concile dogmatique ni philosophique, nous ne faisons pas de la philosophie scolastique, nous faisons un concile pastoral. Bien, c'est un concile pastoral. Mais la dignité humaine, l'homme n'est digne que dans la mesure où il recherche la vérité, où il adhère à la vérité, où il adhère au bien. Il ne peut pas se dire digne lorsqu'il adhère à l'erreur et lorsqu'il recherche le vice. Dans la mesure où nous recherchons le vrai et le bien, dans cette mesure-là, nous sommes dignes. Dans la mesure où nous recherchons l'erreur et le vice, nous sommes dignes. C'est insensé. Alors, au nom de la dignité humaine, on accorde les mêmes droits à toutes les religions. C'est une absurdité. Et qui nous jette dans la confusion totale. Et ensuite, nous arrivons à l'œcuménisme. Et l'œcuménisme, c'est la fraternité. La meilleure preuve, c'est qu'on maintenant, on ne parle plus d'hérétiques, on parle de frères séparés. On parle de nos frères les maçons. On parle de nos frères les musulmans, les bouddhistes, etc. Il n'y a plus, on ne veut plus surtout parler de termes d'hérétiques ou de gens qui ne sont pas dans la vérité. Parce que tout le monde est en recherche de la vérité. Nous sommes tous ensemble en recherche dans la vérité. Tous ensemble, nous marchons sur le chemin du salut. Si toutes les religions menaient au salut. Ce qui est absolument faux, nous devons garder cette vérité absolument ferme dans nos cœurs et dans nos esprits. Extra ecclesiam nulla salus. En dehors de l'Église, pas de salut. Ah, mais vous êtes un intolérant, vous exagérez, n'est-ce pas? Mais non, on n'exagère pas du tout, il suffit d'expliquer cette vérité. Parce que tout a été donné par notre Seigneur à son épouse mystique qui est l'Église. sanctifier l'Église. Toutes les grâces de salut, aucune ne peut passer en dehors de l'Église. Il y en a qui sont distribuées en dehors du corps visible de l'Église. Il y a des grâces de salut qui sont distribuées parmi les protestants, parmi les bouddhistes, parmi les païens. Il y a des grâces de salut, mais par l'Église, jamais en dehors de l'Église. Mais enfin, est-ce que ce n'est pas les protestants, sont les protestants qui se sauvent, ils se sauvent par le protestantisme? Non. Ils ne se sauvent pas par le protestantisme, ils se sauvent par l'Église catholique. Peut-être à l'occasion de vérités qui sont développées dans le protestantisme, peut-être, mais pas par l'intermédiaire de l'erreur. On ne peut pas se sauver par une religion fausse. On se sauve par la vérité. Et donc même ceux qui se sauvent dans les religions qui ne sont pas chrétiennes, ce ne peuvent se sauver que par le désir implicite du baptême. Vous savez bien qu'il y a le baptême de l'eau, le baptême du sang et le baptême de désir. Les catéchumènes qui ne sont pas encore baptisés, qui ont le désir du baptême, se sauvent. Ils ont la grâce s'ils viennent à mourir avant le baptême. Ce baptême de désir peut être un désir implicite. Implicite dans le désir de ces pauvres païens, de ces pauvres gens qui ne connaissent pas la religion catholique et qui auraient dans leur cœur un désir sincère de faire la volonté du bon Dieu. Et donc de se soumettre à la volonté du bon Dieu qui comprend implicitement le désir du baptême. Et ainsi, ils deviennent membres de l'Église catholique. Voilà ce qu'est la réalité que notre Seigneur a faite. On ne peut pas se sauver par les autres religions. On ne se sauve pas, comme le disent certains pères, n'est-ce pas? Aidez donc les musulmans à être de meilleurs musulmans, comme ça ils se sauveront. Aidez les bouddhistes à être de meilleurs bouddhistes, de telle manière qu'ils se sauvent. Pure folie. Il faut convertir ces gens-là à la vérité. Ce n'est pas étonnant que maintenant l'esprit missionnaire de l'Église soit totalement ruiné. Pourquoi traverser les mers? Pourquoi aller évangéliser les animistes? Pourquoi aller évangéliser les bouddhistes, les musulmans, si tout le monde se sauve par sa religion? Il n'y a pas de raison. Laissons-les bien tranquilles et puis ils se sauveront par leur religion comme nous nous sauvons par la nôtre, peut-être. Ce sont là des choses excessivement graves. Voyez. Ça tient au cœur de l'Église, à la vérité de notre Seigneur. Et la liberté religieuse, telle qu'elle a été dite ainsi dans le Concile, je vous assure, je puis le dire en toute conscience, lorsque je voyais ces conclusions, lorsque j'entendais ces conclusions, il me semblait qu'on blasphémait Dieu. Je n'ai pas peur de dire ça. Parce que accepter la liberté religieuse sous prétexte de dignité humaine, c'est blasphémer la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, parce que Dieu est vérité, et on n'a pas le droit de mettre la vérité sur le même plan que l'erreur. On n'a pas le droit de mettre le Dieu au rang de Mahomet, de Luther, de Bouddha, n'est-ce pas? Et regardez bien, l'œcuménisme vu par un franc-maçon, bien, je vous assure que c'est quelque chose qui fait réfléchir lorsqu'on lit cela. Après avoir parlé du pape Jean XXIII, après avoir parlé du pape Paul VI, ce Marsaudon, qui est donc du rite écossais ancien et accepté, franc-maçon, dit et maintenant, n'est-ce pas, le concile. Alors il parle du concile, il explique le concile. Progressivement, on se rapproche enfin des sources, on se réunit, on cause. Et puis c'est le pontificat de Jean XXIII, un véritable bond en avant, une compréhension plus générale d'un problème universel. De graves obstacles subsistent, certes, mais on voit une lueur de part et d'autre. Entre la formule franc-maçonnique du grand architecte de l'univers et le point oméga de Teilhard de Chardin, on discerne mal ce qui pourrait empêcher les hommes qui pensent de s'entendre. À l'heure actuelle, Teilhard de Chardin est certainement l'auteur le plus lu, à la fois dans les loges et dans les séminaires. Dit par un franc-maçon, il conclut dans ses... Aujourd'hui, on parle non seulement de rapprochement, mais c'est cela, la révolution voulue par Jean XXIII, la liberté de conscience. Ils ne devront pas oublier pour autant que tout chemin mène à Dieu et se maintenir dans cette courageuse notion de la liberté de penser. C'est là qu'ils veulent en venir et c'est là ce qu'on a voulu, la liberté de conscience, liberté religieuse. Libérer, chacun fait sa religion comme il l'entend, chacun la religion comme il le veut. Plus de loi morale, la morale que l'on veut, n'est-ce pas? Eh bien... Ils ne devront pas oublier se maintenir dans cette courageuse notion de la liberté de penser qui, on peut vraiment parler là de révolution, partie de nos loges maçonniques. Liberté de penser, partie de nos loges maçonniques, s'est étendue magnifiquement au-dessus du dôme de Saint-Pierre. Voilà le témoignage d'un franc-maçon. Quand je vous dis que c'est le concile qui est à l'origine des maux que nous souffrons actuellement, j'en suis convaincu, absolument persuadé. Pas dire l'interprétation du concile. Ils ont voulu cela, ils ont voulu faire pénétrer les idées de la Révolution française par l'intermédiaire du Concile. Jusqu'au pape Pie XII, c'était un barrage solide contre toute l'idéologie maçonnique. Tous les papes, Depuis les papes qui ont vécu au moment de la Révolution jusqu'au pape Pie XII, tous ont condamné avec un acharnement absolu toutes ces idées, ces erreurs de la liberté de conscience, de la liberté de parole, de toutes ces libertés, n'est-ce pas, ce droit nouveau, comme l'appelait Léon XIII, n'est-ce pas. Ils les ont condamnés, ils ont fait un barrage. Les idées de la Révolution, on pouvait le dire juste avant le Concile, n'avaient pas pénétré dans l'Église, ou très peu, d'une manière insidieuse, dans les séminaires, justement par des auteurs comme Teilhard de Chardin, mais on peut dire que d'une manière générale, l'Église était encore saine et s'était bien défendue. Par le truchement du Concile, les idées de la Révolution française et la philosophie maçonnique de la Révolution est entrée dans l'Église. Et ce qui a fait éclater les sociétés civiles au moment de la Révolution française, qui fait qu'on navigue toujours entre l'anarchie et la tyrannie, eh bien, fait que maintenant, l'Église se trouve dans la situation de la société civile après la Révolution. Et d'ailleurs, le cardinal Swenham ne s'en est pas caché. Il a dit, le Concile Vatican II, c'est 89 dans l'Église. Il l'a dit explicitement à la réunion des théologiens qui a eu lieu à Bruxelles il y a 2 ans. Ils ont bien compris, ils savent bien ce qu'ils font. Ils veulent faire pénétrer cette idéologie maçonnique dans tous les esprits. Et c'est pourquoi on perd la foi. Parce que c'est la déesse raison qui a été l'objectif principal de la Révolution française. Remplacer Dieu par la déesse raison, l'homme qui se fait Dieu. Actuellement, c'est cela dans l'Église. On détruit la foi, on détruit la notion de Dieu, on détruit l'autorité parce que c'est une participation à l'autorité de Dieu. On détruit l'autorité personnelle parce qu'on a horreur de penser que ça pourrait être une image de Dieu, celui qui a l'autorité. Alors on la noie dans la base, dans la masse, n'est-ce pas ? Et c'est vraiment la révolte actuellement de la raison contre la foi. C'est ça le drame que nous vivons actuellement. Le prêtre ne croit plus en lui-même parce qu'il n'a plus la foi. Il n'a plus la foi, il perd la foi. On ne croit plus au sacrifice de la messe parce qu'on perd la foi. On ne croit plus au sacrement, on ne croit plus à la grâce, on ne croit plus à la prière parce qu'on n'a plus la foi. On transforme le credo, on transforme tout dans des choses purement humaines. On se remet au niveau de l'homme et par le fait même on perd le sens commun. Parce que l'homme sans la grâce ne peut pas même tenir de raisonnement sain, il ne peut pas garder son intelligence saine. Et par conséquent, on perd le sens commun. Voilà ce que je voulais vous dire et vous montrer comment la situation dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas, est dramatique et tragique. Et maintenant j'en viens à mes conclusions. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Si nous sommes en danger de voir notre foi diminuer ou de voir notre foi se dissiper, nous devons tout faire pour la maintenir. Tout. Ah, mais comment voulez-vous alors? Nous devons obéir à nos évêques, nous devons obéir au pape, nous devons obéir à Rome. Je ne sais pas. Je dirais, je ne veux pas considérer ces choses-là, mais je veux sauver mon âme. Je veux arriver à la vie éternelle, et la foi me procure la vie éternelle. Donc je préfère mourir plutôt que d'abandonner ma foi. Et par conséquent, tout ce qu'on me dira qui sera contraire à ma foi, je le refuserai catégoriquement. Comme l'a dit saint Paul, si un ange du ciel vient vous enseigner le contraire de ce que je vous dis, ne le croyez pas, n'est-ce pas, renvoyez-le. Eh bien, c'est la même chose. Si quelqu'un vient nous dire quelque chose de contraire, non pas à ce que nous pensons, nous, personnellement, non pas à ce que Mgr Lefebvre pense, mais à ce que l'Église pense depuis 2000 ans, à ce que l'Église affirme depuis 2000 ans, au dogme qui a été défini, et pour toujours, dans le Concile de Trente. Le Concile de Trente a été un concile dogmatique, infaillible. C'est ce qu'a dit le cardinal Ottaviani très clairement. Nous ne pouvons pas enlever quoi que ce soit dans les vérités qui ont été définies infailliblement par le Concile de Trente et qui sont valables pour toujours, jusqu'à la fin des siècles. Tout chrétien qui nierait une vérité qui serait affirmée dans un concile dogmatique se sépare de l'Église et devient un hérétique. Ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Il ne faut plus rien changer au Concile de Trente. Tandis que le Concile du Vatican II est un concile pastoral qui a évité justement de s'engager dans la vérité, de s'engager dans le dogme. Et c'est pourquoi il a pu être ce qu'il a été. Sans quoi il n'aurait pas pu l'être. Si le pape avait dit, nous faisons un concile dogmatique, le Saint-Esprit s'engageait, ces choses-là n'auraient pas pu se faire. Il aurait fait tomber une bombe atomique sur le Saint-Pierre, on n'en sait rien. Mais enfin, c'était impossible, n'est-ce pas? Mais dans le cas actuel, eh bien, nous sommes où nous en sommes. Alors nous devons protéger notre foi. Pour protéger notre foi, nous devons l'affirmer. L'affirmer dans nos familles, dans nos foyers, partout où nous sommes, affirmer notre foi. Et pour que nous ayons ce courage, il faut prier. Il faut prier. C'est l'heure est aux héros. Vous savez, ceux qui veulent garder leur foi doivent être des héros. Ils seront poursuivis, ils seront persécutés, ils seront contredits, ils seront contrariés. Mais ça, c'était l'histoire de l'Église. Toute l'histoire de l'Église nous raconte, c'est une histoire de martyrs. Tous les saints ont été en définitive des martyrs. Eh bien, il faut que nous gardions notre foi, et pour cela, il faut que nous prions. Il faut réciter le chapelet. La Très Sainte Vierge, c'est elle qui nous protège contre les hérésies. C'est elle qui est forte comme une armée rangée en bataille contre tous les assauts du démon. Allons devant nous cramponner à la Très Sainte Vierge en récitant notre chapelet tous les jours, au moins notre chapelet, sinon notre rosaire, pour demander à la Vierge Marie, gardez-moi dans la foi jusqu'à la persévérance finale, jusqu'à ce que je meure, jusqu'à mon dernier soupir, gardez-moi dans la foi catholique et romaine, toujours. Voilà ce que nous devons faire prier nos enfants, les réunir autour de la Vierge Marie, et ainsi votre foyer sera protégé, n'est-ce pas? Et ensuite faire pénitence. La Très Sainte Vierge l'a demandé à tous les petits voyants auxquels elle se montrait. Elle a toujours demandé de faire pénitence. Alors si nous avons des compromis avec le monde, avec toute la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, avec tout ce qui est présenté dans ces télévisions, qui tout doucement affaiblit notre sens moral, nous perdons le sens du péché, nous perdons notre sens moral à force de regarder des vedettes ou des soi-disant héros, qui sont des héros de l'immoralité, Il n'est pas possible que nous soyons toujours devant notre poste télévision à voir de l'immoralité sans perdre le sens du péché, le sens moral, et sans nous éloigner du bon Dieu. Alors prenons garde. Sachons faire pénitence, sachons renoncer à tout ce qui est scandale du monde. Et enfin, vous devez vous unir, comme vous l'avez fait aujourd'hui, vous devez vous réunir et demander qu'on maintienne ceux qui doivent maintenir votre foi. Et par conséquent, entourer les prêtres qui, eux, sont aussi pris dans une situation difficile et qui se demandent comment faire pour garder leur foi, la foi de leurs ouailles. Bien, s'ils sentent qu'ils sont entourés par des gens qui ont vraiment la foi, alors ils rediront cette messe, ce sacrifice de l'autel auquel vous puiserez les grâces dont vous avez besoin. Alors ils vous donneront les sacrements qui seront valides et donc vous aurez la grâce du bon Dieu avec vous, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que je fais ce séminaire, pour cela que le bon Dieu m'a mis sur le chemin. C'est pas moi qui un jour ai pensé, je vais faire un séminaire pour qu'il y ait de bons et de saints prêtres et que l'Église continue. Non, ce sont les séminaristes eux-mêmes qui sont venus me pousser, des prêtres, des parents, qui ont dit, mais Monseigneur, faites donc quelque chose. Ces séminaristes ne savent plus où aller, ils ne savent plus dans quel séminaire se rendre. Ils vont perdre la foi et les mœurs dans ces séminaires. Alors, faites quelque chose. C'est comme ça que je me suis lancé, en me disant que j'allais dans une aventure, n'est-ce pas? Eh bien, une aventure, il faut le reconnaître, que je pense que c'est une aventure divine quand même, parce que j'ai été stupéfait de voir avec quelle rapidité l'évolution s'est faite. En l'espace de 4 ans, j'ai trouvé 65 séminaristes de différents pays, et j'en ai déjà 25 d'inscrits pour l'année prochaine. J'ai voulu construire des bâtiments pour les abriter, ces séminaristes, et ma foi, les bienfaiteurs se sont montrés tellement nombreux et tellement généreux que j'ai pu faire ces deux bâtiments très importants, sans aucune dette, n'est-ce pas? Et je vais continuer un troisième bâtiment cette année pour loger 120 séminaristes, si le bon Dieu le permet, car je suis entièrement dans les mains du bon Dieu. Et je préférais vivre dans l'ombre, rester là-bas dans ce petit coin idéal de Suisse, pays à la fois bien chrétien du Valais, dont nous avons un représentant ici, pays à caractère international qui me facilitait la venue des gens de tout pays, placé au cœur de l'Europe, et puis dans le calme de ces belles montagnes, enfin qui élèvent les âmes des séminaristes. J'étais aussi près de l'université de Fribourg, c'est pour ça que j'étais allé en Suisse, parce que l'université de Fribourg était encore bonne. Et donc mes séminaristes, eh bien, croisent dans la paix, dans le silence, dans le recueillement. Nous n'avons pas de télévision là-bas, non. Ces séminaristes sont très heureux, si vous les voyez, il y en a peut-être parmi vous qui sont déjà passés à Écône, ils rayonnent de joie, de simplicité, de piété, de ferveur. Et ces séminaristes ne sont pas des petits-enfants, pas des enfants de 15 ans, ce sont des grands jeunes gens, des hommes déjà, qui ont entre 20 et 30 ans, dont plusieurs, un est maître en biologie, a fait 7 ans de biologie, l'autre est médecin, l'autre deux sont ingénieurs, d'autres ont plusieurs, enfin 7 ou 8 ont des licences, ce sont des jeunes gens qui réfléchissent et qui sont heureux de se donner au bon Dieu et qui s'y donnent de tout leur cœur. On les retrouve séminaristes, mais je dirais plus parfaits que nous étions, nous, quand nous étions dans nos séminaires. Par conséquent, il y a de l'espoir, rien n'est perdu avec des jeunes gens comme ça. N'est-ce pas? Et si on pouvait multiplier ces séminaires, si seulement les évêques, je me mettrais à genoux au pied des évêques pour leur demander de faire des séminaires comme ça. Mais faites donc, réunissez donc ces gens, vous ferez comme ces séminaristes que vous aurez sont les mêmes que les miens, et vous pourrez faire un séminaire comme le mien. Alors je ne vois pas pourquoi nous sommes attaqués parce que nous faisons un séminaire pour faire de bons prêtres. Alors ce séminaire est une société, j'ai fondé une société, comme la Société des Missions étrangères, voyez-vous, mais qui n'est pas la Société des Missions étrangères, c'est une société des missions. On pourra être missionnaire partout, aussi bien en France, en Europe, qu'en Afrique, qu'en Asie, qu'en Amérique, partout où le comme les missions étrangères ont envoyé et envoient encore des prêtres en Extrême-Orient qui restent membres des missions étrangères. Comme nous, Spiritains, quand nous étions envoyés en Afrique, eh bien, nous étions membres de la congrégation. Et alors, ces prêtres qui sont des missionnaires, eh bien, demeureront dans la fraternité, vivront dans cette ambiance qu'ils ont vécue dans leur séminaire, et ainsi seront protégés dans leur foi aussi, eux, et resteront, je l'espère, de bons prêtres. Vous me direz, mais qui va les appeler? Oh, je n'ai aucune espèce d'appréhension pour cela. Et vous pouvez demander à mes séminaristes, ils n'ont aucune appréhension pour cela non plus. Déjà, nous sommes demandés par de nombreux évêques, pas encore par des évêques français, mais je ne serais pas étonné que ça vienne bientôt. Et je suis... En tout cas, si nous avons fait cela, eh bien, je souhaite aussi que vous puissiez organiser des catéchismes, protéger la foi de vos enfants, organiser des catéchismes dans toutes les villes, dans tous les lieux où vous êtes, afin d'enseigner le vrai catéchisme, le vrai credo, la vraie doctrine de l'Église à vos enfants. Et si vous le pouvez, faites donc des écoles vraiment chrétiennes, qui ont une atmosphère vraiment de piété, de surnaturel, de soumission à Dieu, de soumission à notre Seigneur Jésus-Christ, à la loi du bon Dieu. Alors vos enfants seront pétris de cette foi qui ont fait la France, cette foi de nos ancêtres, n'est-ce pas? Cette foi des croisés qui sont partis pour reconquérir la Terre Sainte, enfin cette foi de Jeanne d'Arc, cette foi de tous les saints de France. Et nous sommes dans une période où il faut cela actuellement. Il faut avoir ce courage. Il ne faut pas nous laisser endormir dans l'ambiance démoralisante dans laquelle nous vivons actuellement. Et puis pour finir, eh bien, je pense que je souhaite en tout cas que vous puissiez prononcer aussi cette phrase, et comme je le souhaite pour moi-même également, de saint Paul, n'est-ce pas? Cursum consumavi, fidem servavi, in relico reposita est mihi corona justitiae. J'ai fini ma course. Cursum consumavi, fidem servavi, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Saint Paul a dit, j'ai gardé la foi. Si saint Paul se rend heureux d'avoir gardé sa foi, dernière grâce que le bon Dieu lui fait, alors comment nous ne souhaiterions pas dire avec lui, enfin, j'ai gardé la foi, et parce que j'ai gardé la foi, j'aurai la couronne de la sainteté, j'aurai la couronne de la justice au ciel. Bien, c'est cela qu'il faut que nous demandions, c'est cela qu'il faut que nous fassions, c'est cela qu'il faut que nous réalisions en nous et autour de nous pour que les saintes églises continuent.
Adressé à Mgr Lefebvre et sont aussi la meilleure consolation pour cette fatigue qu'il a acceptée en entreprenant ce voyage en Bretagne. Je voudrais aussi que ce soit un remerciement pour notre ami du Valais qui a accompagné Mgr Lefebvre. Ici à Brest particulièrement, l'encourage encore à accepter de donner des conférences ailleurs parce que je crois qu'il faudrait que le maximum de gens entendent le témoignage de Mgr Lefebvre. Merci Mgr.
S'il vous plaît. Monseigneur Lefebvre, au nom des prêtres qui sont ici, et comme aumônier de l'école navale, j'ai un grand détachement qui est en bas et qui nous écoute, au nom de tous les élèves de l'école navale. Merci Monseigneur de votre présence à vous. Bénédiction Dei
omnipotens, Patris, Filii, Spiritus Sancti, descendat sermo, et mania semper.